Vous écoutez un podcast RTL Originals.
Ici Philippe Corbet, le correspondant de RTL aux États-Unis. Aujourd'hui, Cap au Nord, je vous emmène au centre de l'Alaska, dans un endroit si reculé qu'il n'y a presque aucun bruit. Hi everyone. Je suis assez loin du bureau RTL de Manhattan aujourd'hui, puisque je vous envoie cette lettre d'Amérique depuis une yourte isolée, je crois même qu'on peut dire paumée, entourée de pins. Devant moi, la montagne du Denali, la plus haute d'Amérique du Nord. Et si je veux prendre une douche ou si je veux me laver, il y a une rivière à 10 minutes à pied. Je vais vous raconter dans un instant pourquoi je suis dans une yourte. Il est 4h, presque 4h30 du matin. Le soleil est déjà levé. Enfin, le jour est levé puisqu'il fait gris, il a plu, il ne fait pas très chaud. Et si le jour est levé, c'est que je ne suis pas très loin du cercle polaire arctique. Je suis au centre de l'Alaska et j'enregistre ce podcast au mois de juillet, donc il y a des nuits extrêmement courtes ici d'été et des jours extrêmement courts, parfois 2 heures seulement en plein hiver. Si vous avez lu le livre Into the Wild, ça se passe pas très loin d'ici. Et d'ailleurs, le film de Sean Penn a été tourné à quelques kilomètres et je vais vous en parler dans quelques minutes. Je ne suis pas très loin de la Russie, ou plutôt le dernier village à l'ouest de l'Alaska qui s'appelle Pays de Galles. Est à 83-85 km de distance de la Russie à travers le détroit de Bering. Ici au centre de l'Alaska, quelqu'un m'a raconté, je ne sais pas si c'est vrai, il faut que je vérifie, mais quelqu'un m'a raconté qu'on est plus près en distance de Paris que de New York. En tout cas, ça se joue à quelques kilomètres. Donc, la yourte, bon, c'est une expérience. C'est une construction circulaire avec une ossature en bois surmontée d'une espèce de bâche en plastique. On est au XXIe siècle, les peaux de bête, on a trouvé mieux que les peaux de bête. Il y a un poêle dont le conduit sort du sommet de la yourte. J'ai de l'eau, alors pas de l'eau courante évidemment, c'est un baril qui a été coupé en deux et qui récupère de l'eau de pluie. J'ai plutôt bien dormi, même si c'était d'une oreille. Il y a des caribous, des élans, des aigles dans le coin, je me méfie un peu. Il y a même des ours, et le propriétaire de la yourte m'a laissé une bombe, comme une bombe anti-agression, Bear Deterrent, c'est un spray pour repousser les ours. Bon, la menace est quand même assez minime, hein. Je ne vais pas me faire attaquer par un ours ici. Tant que je ne laisse pas de nourriture à l'extérieur ou dans la voiture, ça devrait aller. Vous entendrez d'ailleurs dans un peu plus tard dans cette lettre d'Amérique le propriétaire qui a vécu pendant 3 ans ici dans cette yourte à l'année jusqu'à ce que son épouse ne tombe enceinte. Et vivre dans la yourte ici à l'année, ça veut dire vivre dans une yourte pendant 6 mois de neige. On en reparlera dans un instant. Non, c'est parce que c'est pas une lettre d'Amérique sur les yourtes que je vais vous faire aujourd'hui. Non, simplement en étant ici ces derniers jours en Alaska, j'ai beaucoup pensé à quelque chose à laquelle je pense d'ailleurs assez souvent quand j'atterris en Europe ou partout, quand vous survolez l'Europe, vous avez des hameaux, des églises, des routes, des champs soigneusement dessinés, des siècles de travail de générations successives. En fait, on peut apercevoir la civilisation européenne d'un simple coup d'œil avant d'atterrir. Et ce n'est pas le cas ici. Ce n'est pas le cas en Amérique. Évidemment que ce n'est pas le cas ici. C'est une évidence, mais qu'il faut avoir en tête pour comprendre ce pays. Les États-Unis sont à moitié vides. Je vais vous expliquer pourquoi, mais c'est quelque chose à laquelle je pense assez souvent quand je parcours l'Amérique. J'aurais pu vous en parler d'ailleurs il y a quelques mois, depuis le village de l'ouest du Texas où je me suis marié, qui est isolé au milieu du désert, qui est à 3 heures de route d'un aéroport. Quand vous regardez une carte satellite des États-Unis, prise donc depuis l'espace, la nuit, vous voyez la lumière des zones habitées, c'est très frappant. Vous voyez à quel point les États-Unis, la répartition de la population est totalement déséquilibrée. En gros, l'Est des États-Unis est presque autant éclairé que l'Europe, c'est assez densément peuplé, mais la moitié Ouest est quasiment vide, jusqu'à la côte Pacifique, où là, il y a une bande de lumière, les agglomérations de Los Angeles, San Francisco. Mais entre les deux, entre la côte Pacifique et la partie est du pays, eh bien, il y a des milliers de kilomètres noirs, vides donc, avec quelques points de lumière très intenses. Phoenix dans l'Arizona, Denver dans le Colorado, des agglomérations qui grossissent très vite. Et quand je survole là, de jour en avion les États-Unis d'est en ouest ou d'ouest en est, je suis toujours impressionné par ces espaces immenses. Quand on vient de l'est, donc quand on quitte après avoir survolé le Mississippi, bien vous voyez les grandes plaines, puis les montagnes rocheuses. Puis, quand on va vers le sud-ouest, les déserts. Et quand on va vers le nord-ouest, les forêts. Et alors, que dire de l'Alaska ici? Évidemment, c'est l'état le moins éclairé sur cette carte satellite nocturne. L'Alaska, c'est à peu près de la population de la rive gauche à Paris, mais sur un territoire qui fait plus de deux fois la taille de la France métropolitaine. L'Alaska, c'est bien entendu l'état le moins densément peuplé. Il y a 0,49 habitants au kilomètre carré. Mais le Wyoming, le Montana, les Dakotas, l'Idaho, le Nebraska, le Nevada, le Nouveau-Mexique ne sont pas des États non plus très peuplés. En moyenne, sur l'ensemble des États-Unis, donc avec l'Ouest et l'Est, les États-Unis, c'est 30 habitants par kilomètre carré. Donc en moyenne, la France métropolitaine, c'est 100 habitants au kilomètre carré. La Belgique, 360. Les Pays-Bas, 400. Et si je vous raconte ça ici depuis l'Alaska, c'est qu'on ne peut pas comprendre l'Amérique sans avoir cette évidence géographique en tête en permanence. On ne peut pas comprendre son histoire. Les États-Unis sont 13 colonies anglaises de l'Est qui prennent leur indépendance et dont les habitants et les immigrants venus pendant longtemps d'Europe partent peu à peu conquérir l'Ouest. On ne peut pas non plus comprendre le mythe de la conquête de l'Ouest, les grands espaces, le mythe de la frontière, sans cesse repousser les frontières, les limites géographiques, technologique. On ne peut pas comprendre le scepticisme d'une partie de l'Amérique sur les conséquences du dérèglement climatique, hein. Même si on en voit les effets ici très nettement. Et d'ailleurs, j'ai consacré un podcast à ce sujet sur les effets du dérèglement climatique en Alaska. Vous pouvez le retrouver sur rtl.fr. Eh bien, il faut reconnaître qu'une partie du climato-scepticisme américain est liée au fait que l'Amérique s'est construite sur l'idée que la nature est à la fois hostile, inhospitalière, qu'il faut donc la maîtriser, et en même temps c'est une source de richesse quasi infinie, ces sous-sols, ces immenses territoires à exploiter. On ne peut pas non plus comprendre l'économie américaine, l'agriculture, les transports, ici on prend l'avion ou la voiture, et pas le train, évidemment. Même entre Los Angeles et San Francisco, ça fait des décennies qu'ils partent d'une ligne à grande vitesse, mais il faudrait traverser des montagnes, des zones vides au centre de la Californie. Donc évidemment il n'y a pas de réseau de grande vitesse ici. On ne peut pas comprendre les questions d'immigration. Le président Trump dit les États-Unis sont pleins, débordent, il faut fermer la frontière. Les États-Unis ne sont pas pleins. Et d'ailleurs, comment feraient les agriculteurs de Californie ou du Kansas, qui souvent d'ailleurs votent pour le parti républicain et qui, sans la main-d'œuvre immigrée, eux-mêmes vont contre leur parti en disant mais sans la main-d'œuvre immigrée, ils ne peuvent pas fonctionner. Il n'y a pas assez de bras dans le coin. On ne peut pas non plus comprendre, sans avoir en tête cette évidence géographique, les questions de santé. Ici, on parle souvent en France de déserts médicaux et ce sont des sujets importants, mais ici, il faut parfois faire des heures de route pour trouver un hôpital ou une maternité. Les petites villes s'organisent, il y a des hélicoptères en cas d'urgence, il y a des maisons de santé locales qui sont assez efficaces. On ne peut pas comprendre l'éducation. Une mère de famille me racontait hier dans l'Alaska, ici, que l'État de l'Alaska paye les parents plusieurs milliers de dollars par an s'ils choisissent de faire l'école à la maison. Ce qu'on appelle ici le homeschooling. C'est assez fréquent, notamment dans l'Ouest. Et puis il y a des fermes ici, avec des familles qui sont à 50-60 kilomètres de la première route goudronnée. C'est tellement isolé d'ailleurs qu'il y a un village où j'étais il y a quelques jours en Alaska où on organise chaque année des enchères pour les hommes célibataires, enfin enchères entre guillemets. En fait, c'est une sorte de fête pour trouver des compagnes à ces hommes qui se sentent seuls ici parce qu'il y a un ratio homme-femme totalement déséquilibré. Et donc, il y a plus d'hommes que de femmes et ils ont du mal à trouver l'amour. Même la philosophie politique des États-Unis est nourrie de cette réalité géographique. La liberté individuelle prime. Exemple, le droit de porter des armes pour se protéger. La liberté individuelle par rapport à ce qu'en France on appellerait l'État. Bon, ici, par rapport à l'État fédéral, forcément loin. Comment imaginer que la police, l'éducation soient gérées depuis un bureau à Washington, à je ne sais même pas combien de milliers de kilomètres d'ici. Les États-Unis, c'est pour ça qu'on appelle d'ailleurs les États-Unis les États-Unis. États-Unis, c'est une union d'États. Les États fédérés ont du pouvoir. Et même ici, l'État fédéré semble loin. Quand vous êtes en Alaska ou au Texas, l'État fédéré, il est plus grand que la France. C'est aussi pour ça, d'ailleurs, que l'élection du président américain ne se fait pas directement par la population, mais par un vote indirect, État par État. Sinon, tous ces gens qui vivent loin de New York, Los Angeles, Houston, Chicago, Dallas, Miami, de la baie de San Francisco, tous ces gens-là compteraient pour du beurre. Et puis, si on n'a pas tout ça en tête, et beaucoup d'autres choses encore, ce rapport entre population et territoire, on ne peut pas comprendre l'imaginaire américain. On ne peut pas comprendre ses chansons, la country. On ne peut pas comprendre son cinéma, les westerns. On ne peut pas comprendre sa littérature. Jack Kerouac n'aurait pas pu écrire « On the road », sur la route, en France, d'où venaient ses ancêtres. C'est évidemment une histoire américaine. Et quand je parle de la route, c'est aussi une route fantasmée. D'ailleurs, puisque je parle de littérature et de route, c'est un livre qui m'a amené ici, dans cette yourte au milieu de l'Alaska. Ce n'est pas un roman, c'est ce qu'on appelle aux États-Unis, dans le milieu d'édition, de la non-fiction, c'est-à-dire un récit littéraire, mais basé sur des faits réels, avec un personnage qui a existé. Et c'est un personnage intéressant qui a été travaillé par ces mythes dont je vous parlais. Le livre s'appelle Into the Wild. Il a été écrit par John Cracker. Je crois qu'en France, ça a été traduit sous le titre « Voyage au bout de la solitude ». Et si vous n'avez jamais entendu parler du livre, peut-être vous connaissez l'adaptation au cinéma réalisée par Sean Penn. Ça raconte l'histoire de Christopher McCandless, qui a grandi à l'Est, en Virginie, pas loin de Washington. Et il lisait beaucoup Jack London, Cro-Blanc, L'appel de la forêt. Et en 1990, une fois diplômé, il rêvait d'une autre vie que celle qui était tracée pour lui, les bureaux, la voiture, le petit pavillon de banlieue. Et comme beaucoup d'autres avant lui, il a préféré prendre la route vers l'ouest. Alors lui, il a poussé ça très loin, puisqu'il est venu jusqu'ici, en Alaska, dans un endroit reculé, donc comme je vous le disais, pas loin de l'endroit où je me trouve, ici, de cette yourte. Il vivait dans un autobus abandonné, en pleine nature sauvage. C'est ce qu'il cherchait, mais il n'était pas préparé. Il était venu avec très peu de nourriture, une carabine, quelques livres. Il n'allait pas aller bien loin et de fait, il est mort, puisque la nature est hostile. Cette histoire est évidemment un exemple extrême, hein, mais cette idée de tout quitter pour vivre sa vie à l'ouest, pour avoir une vie meilleure, une vie différente en tout cas, dans un territoire presque vierge, à conquérir. C'est un rêve américain, qui est ancien, qui remonte au 19e siècle, mais qui est toujours vivant. Et c'est un peu ce qu'a fait Clay, qui est donc le propriétaire de la yourte d'où je vous parle. Clay a grandi dans le Michigan. Michigan, c'est l'état de Détroit, donc c'est près des Grands Lacs, plutôt côté est des États-Unis, plus peuplé. Et à la fin de l'adolescence, il a choisi de venir vivre ici, en fait, en pleine nature. Aussi loin que possible de la civilisation trépidante où il ne pensait pas trouver sa place. Aujourd'hui, il vit de la chasse. Il m'a invité à boire le café chez lui. Et chez lui, il a accroché les peaux d'ours qu'il a tuées, les têtes de caribou. Et je lui ai demandé pourquoi il avait choisi de venir faire sa vie ici, au milieu de l'Alaska.
Je suis venu pour vivre quelque chose de plus grand, avec plus d'aventures.
Vous chassez quoi ?
On chasse le mouflon, l'élan, le grizzly, l'ours brun, la chèvre de montagne et le grand cerf. C'est un peu le rêve américain. Tu trouves ta propre terre, construis ta propre maison, tu crées ton propre espace. C'est enraciné dans notre pays, parce qu'on a de l'espace, ces terres, toutes ces terres qui ne sont pas exploitées. Alors qu'en Europe, vous êtes là depuis toujours, presque depuis le début de l'humanité. Donc il n'y a pas de nouveaux espaces là-bas. Ici, vous pouvez vous étendre, toujours un peu plus.
Et comme je vous le disais, il a vécu 3 ans ici, dans cette yourte, avec son épouse. Et quand elle est tombée enceinte, ils se sont dit que bon, c'était évidemment préférable de ne pas avoir un bébé dans cette yourte. Il fait froid l'hiver, 6 mois, 7 mois, parfois 8 mois de neige. Donc il a construit une maison tout seul, un peu plus loin. Leur bébé a maintenant 18 mois et la vie dans un endroit aussi isolé pose des problèmes quotidiens que, évidemment, moi, je ne connais pas en habitant à Manhattan.
Ce n'est pas difficile. C'est juste que les contraintes sont différentes. Il faut beaucoup rouler pour aller faire les courses. Il y a une épicerie à 80 km. Mais la plupart des magasins où nous faisons nos courses sont à Fairbanks. C'est presque à 3 heures d'ici. Donc, il faut plus prévoir à l'avance. Vous ne pouvez pas oublier le lait et aller chercher du lait. Il faut s'organiser.
En fait, ce que raconte Clay, ça me rappelle, même si c'est un peu extrême ici, évidemment, au centre de l'Alaska, mais ça me rappelle les conversations que j'ai eues à nombreuses reprises avec des Américains qui ont décidé eux aussi d'aller faire leur vie, de quitter les grandes villes pour aller vivre dans des coins isolés du Texas, du Nevada, du Wyoming. Et c'est vrai qu'avec Internet, même si ce n'est pas du haut débit, souvent dans ces zones reculées, eh bien, beaucoup se disent qu'ils peuvent continuer à travailler à distance, même dans un hameau, loin des grandes villes, une vie différente. Voilà pour cette lettre d'Amérique, depuis le centre de l'Alaska, devant une yourte. Je vous laisse avec. Je vous invite d'abord à lire ce livre, Into the Wild, voir le film de Sean Penn, et je vous laisse avec une des chansons du film qui avait obtenu le Golden Globe à l'époque. Ça s'appelle Guaranteed d'Eddie Vedder. Thank you. Tous les épisodes d'Une lettre d'Amérique et des autres podcasts et balados RTL Originals sont à retrouver sur rtl.fr. So good.